VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, 62 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi dans les attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires dans la commune septentrionale d'Arminda, au Sahel burkinabé frontalier du Mali. C'est ce qui ressort de nouveau bilan annoncé mercredi soir par le ministre de l'administration territoriale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a eu 62 décès, nous avons 32 morts du fait des terroristes, nous avons 30 qui sont décédés du fait des conflits communautaires, des représailles entre communautés, Kurumba, Peul, Mossi, etc., a affirmé le ministre Siméon Savadogo à la télévision. Les djihadistes ont pourchassé les gens et ont commis des tueries. Les terroristes ont également enlevé 9 personnes qu'ils détiennent, a-t-il indiqué. Dans la nuit de dimanche, des individus armés ont pénétré dans le village de Hamkan, situé à 7 km d'Arbinda, où ils ont assassiné le cheikh, le leader religieux du village, son fils aîné et son neveu. Suite à l'assassinat du cheikh Werem, il y a eu des échauffourées entre les communautés à Arbinda qui ont entraîné des représailles de part et d'autre, a indiqué le ministre Sawadogo, regrettant une situation déplorable. La situation sécuritaire est telle que personne n'est à l'abri. Un dispositif de sécurité supplémentaire a été envoyé à Arbinda, a poursuivi M. Sawadogo. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre peuples, traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté peuls ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre peuls et djihadistes et opèrent des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires.
Toujours concernant le combat anti-djihadiste au Sahel, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mercredi qu'il se pencherait dans les mois à venir sur l'avenir de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, visée par une attaque à la roquette hier à Kidal, dans le nord-ouest du pays. Mais dans sa déclaration adoptée à l'unanimité, le Conseil souligne que tout changement concernant la MINUSMA ne devrait pas compromettre la stabilité du Mali. Vendredi dernier, les États-Unis avaient jugé qu'il était temps d'évaluer si une mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali était toujours la meilleure solution au vu de l'insécurité qui continue de régner dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite aux États-Unis jusqu'à vendredi. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a exprimé mercredi son soutien au programme de changement du nouveau leader congolais. M. Pompeo a salué le programme du président Tshisekedi qui est axé sur la lutte contre la corruption, la stabilité et la sécurité, ainsi que le renforcement de la gouvernance et la promotion des droits humains, selon un communiqué du département d'État américain. Pendant sa visite aux États-Unis, le chef de l'État congolais doit être reçu par plusieurs hauts responsables américains, mais aucune rencontre n'est prévue à ce stade entre le président Tshisekedi et son homologue américain Donald Trump. Toujours concernant la RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tire la sonnette d'alarme dans le pays où la propagation de l'épidémie d'Ebola n'a jamais été aussi rapide. Selon l'OMS, le nombre de cas a augmenté à un rythme jamais atteint en 8 mois. Au 2 avril, l'agence onusienne a comptabilisé un total de 1092 cas et plus de 600 décès. Morgan Guerrier a contacté le docteur Ibrahim Afal, directeur général adjoint en charge de la réponse aux urgences à l'OMS.
Aujourd'hui, la transmission se maintient dans 12 zones de santé, donc c'est géographiquement limité. Par contre, l'intensité de la transmission est importante à Katwa et à Butembo.
L'accélération de la propagation est liée donc au conflit. Parlez-nous des difficultés rencontrées à cause de ces violences.
Regardez le pic qu'il y a eu à Katwa et Butembo la semaine passée. C'est un pic qui était attendu compte tenu des interruptions qu'il y a eu dans la réponse 2 à 3 semaines avant, à cause de l'insécurité et de la réticence de certaines populations dans certaines zones. Les activités de prévention telles que la vaccination autour des cas, les activités de désinfection des structures sanitaires dans les maisons ont été retardées. Et chaque fois que ces activités sont retardées, c'est un risque d'infection pour la population qui est en contact avec les cas. Et cela s'est ressenti 2 semaines après. Quand on regarde les autres zones qui ont été affectées avant, comme Beni, on a connu des phénomènes similaires. Et ça a pris pratiquement 2 mois pour pénétrer la communauté, avoir une entente sur la manière de travailler ensemble avec la communauté pour contrôler l'épidémie là-bas. Donc aujourd'hui, nous sommes encore à cette phase où l'apport de la communauté, l'appropriation de la lutte contre contre Ebola par la communauté est un élément essentiel pour arriver à bout de cette épidémie.
Une autre difficulté, toujours liée donc à ces conflits, hein, c'est la mobilité de la population.
Nous avons beaucoup de populations déplacées en interne et chaque fois qu'il y a des attaques par des groupes d'armée, ces populations se déplacent. Très souvent, nous avons des contacts à haut risque qui se déplacent à un endroit plus sûr, puis un risque de propagation plus important.
Dans ce contexte, comment est-ce que vous envisagez l'éradication de cette épidémie?
Nous travaillons de façon très rapprochée avec les communautés pour adapter les stratégies de réponse, parce que ce qui est valable à Manguina, à Béni, n'est pas valable à ou à quatre fois. C'est pour cette raison que nous allons organiser des dialogues communautaires. Écouter la communauté, comprendre leurs préoccupations et les amener à travailler avec nous dans la réponse. Par exemple, à quatre fois, nous avons formé une quarantaine de jeunes de cette communauté qui travaillent aujourd'hui dans la réponse contre Ebola.
Le docteur Ibrahim Afal, directeur général adjoint en charge de la réponse aux urgences à l'OMS, joint à Boutembo en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Ouganda, les forces de sécurité continuent de traquer ce jeudi les hommes armés qui ont enlevé mardi une touriste américaine et son chauffeur ougandais dans un parc du sud-ouest du pays. Les ravisseurs ont emmené avec eux leurs deux captifs, laissant dans le véhicule qu'ils ont attaqué deux autres touristes, un couple de personnes âgées qui n'ont pas été blessées. Les hommes armés ont ensuite utilisé le téléphone de la touriste kidnappée pour réclamer une rançon de $500,000 américains selon la police ougandaise. Kampala estime que cette rançon est la raison du kidnapping. Le 7e sommet des pays africains producteurs de pétrole est en cours à Malabo, en Guinée équatoriale, depuis hier. Plusieurs ministres des hydrocarbures et représentants de compagnies pétrolières du continent africain ils sont réunis jusqu'à demain. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le monde aujourd'hui exige de nous un changement de politique dans la gestion de nos ressources, a déclaré le président Teodoro Obiang Nguema dans son discours d'ouverture. Il a exhorté les autres pays africains à adopter des politiques communes pour s'affranchir de la dépendance aux économies des pays développés. Les pays producteurs de pétrole ont subi la chute des prix du baril en 2014. Si le cours de l'or noir est depuis remonté, il n'a toutefois pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Début décembre, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé de durcir leur accord de limitation de la production pour faire remonter les coûts. Cette décision visait entre autres à faire face au boom du pétrole de schiste aux États-Unis, premier producteur mondial qui pousse les cours à la baisse. Les défis sont encore gigantesques, a déclaré le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo. Près de 900 délégués de 38 nationalités ainsi que 13 entreprises nationales africaines sont présents au sommet, selon le ministre des Mines et Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbanga Obiang Lima.
Afrique du Nord maintenant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement en visite en Libye, s'est dit ce jeudi préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Je suis vivement préoccupé par ce mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation, a écrit M. Guterres sur son compte Twitter au deuxième jour de sa visite en Libye, un pays dirigé par deux autorités. J'appelle au calme et à la retenue alors que je me prépare à rencontrer les dirigeants libyens, a souligné le numéro 1 de l'ONU. Plus de détails sur la visite d'Antonio Guterres en Libye avec Lionel Gaïma.
Son séjour intervient alors que se prépare la conférence de Ghadames dans le centre de la Libye. Prévue du 14 au 16 avril, cette rencontre doit aboutir à une feuille de route qui ouvrirait la voie à des élections présidentielles et législatives. Une autre conférence à l'initiative de l'Union africaine doit se tenir en juillet à Addis Abeba aux fins de réconcilier les différentes parties libyennes. La Libye reste divisée entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj et l'administration rivale basée dans l'est du pays et dirigée par le général Khalifa Haftar. Pour éviter tout risque de confrontation majeure et créer les conditions pour stabiliser la situation en Libye, il est essentiel d'unifier les institutions, a déclaré le secrétaire général onusien mercredi avant de quitter le Caire pour Tripoli.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La musique.